Et ce texte, il se trouve dans le livre de Ruth. Et nous allons lire. Nous allons lire donc dans le premier chapitre du livre de Ruth, et nous ferons juste une petite intro avec le dernier verset du livre des Juges qui se trouve juste avant ce livre de Ruth. Donc en Juges 21 au verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qu'il lui semblait bon. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratites de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui peuvent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela, et bien qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. C'est le matin, et comme tous les matins, Élimélec se lève. Il va ouvrir les volets de sa chambre, et la première chose qu'il voit, eh bien, c'est ses champs d'orge qui sont desséchés par la chaleur et qui font que, eh bien, il n'y a pas de pain dans le pays. En ce moment, c'est la famine. Il contemple ses champs, et puis il ne peut pas s'empêcher de regarder plus loin à l'horizon, en s'imaginant qu'à 70 ou 80 kilomètres de là, dans le pays de Moab, eh bien les gens ont de quoi manger. Il y a des champs qui sont remplis d'épis bien fournis et nourrissants. Et puis, en méditant un peu sur ce sujet-là, en Contemplant tout cela, il finit par descendre au rez-de-chaussée. Naomi et ses deux fils sont déjà réveillés, et quand Naomi le voit, elle l'interpelle et elle lui dit « Tu sais, Maclon a faim, et il n'y a plus grand-chose dans le garde-manger. D'ici la fin de la semaine, la situation va vraiment devenir critique. » Elimelech se tourne alors vers ses deux fils, vers Maclon d'abord, puis vers Kiljon, et il croise leur regard qui est abattu, bien qu'il lui sourie. Et puis il se tourne vers Naomi, et en l'observant, il voit toute la lassitude qui l'étreint sur son visage depuis maintenant des semaines. Alors il regarde Naomi droit dans les yeux et il lui dit « Fais tes bagages. Demain même, c'est décidé, nous partons, nous allons dans un endroit où nos enfants auront de quoi manger et où ils pourront grandir, eh bien, dans de bonnes conditions. » Ce que je viens de dire, c'est un peu romancé, n'est-ce pas ? Bien sûr, ça n'est pas marqué dans la Bible et dans la suite de ce récit, enfin dans ce récit que nous avons lu. Mais il n'empêche que, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander quelle a été la réaction d'Elimelech. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre la décision qu'il a prise et de partir ? Et cette réflexion, il y a des centaines, je dirais même des milliers d'hommes et de femmes qui en ce moment se la posent en Afrique, en Proche-Orient, dans les pays où il y a des gros problèmes. Et chaque jour, des centaines d'hommes et de femmes prennent cette décision de partir et d'aller dans le Moab de l'Europe ou de l'Angleterre pour espérer y trouver mieux. Oui, moi, en tant que chef de famille, en tant que père, à cette époque-là, dans ce contexte-là, qu'est-ce que j'aurais fait ? Ben, probablement que j'aurais eu la même réaction qu'Elimelech. Probablement que j'aurais pris la même décision que lui parce que, eh bien, en tant que parent, on veut le meilleur pour nos enfants et on veut, eh bien, qu'ils puissent avoir de quoi être nourris et pouvoir grandir dans de bonnes conditions, effectivement. Le problème, c'est que quand on commence à creuser un peu dans le texte biblique, dans ce récit, eh bien, on s'aperçoit que cette décision que Elimelech a prise, eh bien, elle pouvait sembler bonne en apparence, mais en fait, elle a eu des répercussions négatives et finalement, peut-être qu'il aurait eu le choix, un autre choix à faire. Il nous faut déjà replacer ce texte dans son contexte. Comme vous l'avez vu au début, nous sommes dans la période des juges. C'est une période qui est très sombre à l'époque d'Israël. Et pour se remémorer, pour faire un léger feedback encore supplémentaire, Israël a été en esclavage en Égypte. Puis Israël a été libéré par Moïse. Il a traversé le désert sous la conduite de Moïse et dans la présence de Dieu. Puis encore, il a conquis la terre promise sous la conduite de Josué et sous la protection et la direction de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'après la mort de Josué et la génération qui a conquis la terre promise, eh bien, s'est élevée une autre génération qui n'a pas connu Dieu comme Josué, Moïse et cette génération-là avaient connu Dieu, et que petit à petit, eh bien, cette génération a commencé à oublier Dieu et à se détourner de lui. Et c'est là que nous rentrons dans la période des juges, dans une espèce de spirale d'immoralité, d'idolâtrie et de corruption où s'inscrit donc cette période des juges, où se lève un juge, libère Israël, et puis après, Israël retombe, et j'ai envie de dire encore pire qu'avant, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous arrivions à la période des rois. C'est une époque donc où, vous l'avez vu dans le premier verset que j'ai lu, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et malheureusement, Elimelech n'échappe pas à cette règle. Il prend une décision qui semble bonne en apparence, mais qui en réalité ne l'est pas vraiment, comme nous allons le voir en détail. Le choix d'Elimelech nous fait réfléchir d'ailleurs à nos propres choix, à nos propres décisions. Il nous renvoie à nos propres vies où nous pouvons être aveuglés par moments en pensant que telle situation, telle décision est bonne, alors qu'en réalité, sous le vernis du bon, eh bien, se dressent des répercussions très mauvaises pour nos propres vies. Et en ce début d'année, occasion où en général eh bien, nous réfléchissons, nous méditons, nous prenons justement de bonnes résolutions, eh bien, il est lieu, et c'est le moment de se demander, de demander à Dieu du discernement et de débusquer tout ce qui pourrait nous tromper, tout ce qui pourrait nous illusionner et nous amener à faire de mauvais choix et prendre de mauvaises décisions. Et c'est en s'attardant sur l'étymologie de certains noms qui se trouvent dans ce récit que nous allons comprendre le contexte de ce livre de Ruth, de ce début en tout cas de livre de Ruth. Tout d'abord, nous avons lu que dans cette période des juges, il n'y avait pas de roi en Israël. Or, le nom d'Élimélec signifie « Dieu, mon roi ». Dans ce pays où il n'y a point de roi, voici un homme qui revendique par son nom que Dieu est son roi. Il symbolise quelque part eh bien, l'étendard de Dieu dans ce pays qui court à sa perte. Dans cette période de famine à Bethléem, Élimélec aurait dû vivre en conformité avec son nom et témoigner dans cette période compliquée que Dieu est là, que Dieu désire régner dans sa vie, mais qu'il veut aussi régner dans la vie des autres habitants de Bethléem. Si Élimélec avait choisi de vivre en conformité avec son nom, il serait devenu ainsi un témoin de Dieu, un repère pour ses contemporains, quelqu'un qui les encourage à tenir bon dans l'adversité. Car au-delà de la situation sanitaire, sociale et économique qui est catastrophique à cause de cette famine, au-delà de tout cela, eh bien, c'est une grave crise spirituelle que traverse le pays et Bethléem notamment. Et comme souvent dans l'Ancien Testament, la famine est un signe qui est envoyé par Dieu à son peuple comme un signe de réprobation, comme un jugement, mais aussi comme une invitation à revenir à lui. Et par exemple, nous pouvons lire en Amos, au chapitre 4, et au verset 6, « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Cette histoire est vraie, elle est historique, mais bien qu'elle le soit, elle est comme une espèce de parabole vivante pour nous, toujours si nous prenons le temps de décrypter eh bien, les différents symboles qui s'y trouvent. Dans un pays où il n'y a pas de roi, celui dont Dieu est le roi part, quitte Bethléem. Ce départ d'Élimélec montre deux choses. Il montre que Dieu, quelque part, non seulement a cessé d'être le roi d'Israël, mais aussi, que Dieu a non seulement cessé d'être le roi d'Élimélec, mais aussi celui d'Israël. Celui qui est l'étendard du Seigneur quitte Bethléem, qui signifie la maison du pain. Il y a ici donc un double sens. Élimélec est sans le vouloir le symbole de Dieu qui ôte sa bénédiction, en tout cas temporairement, à Israël. Et il est aussi le symbole eh bien, du croyant qui renonce à laisser Dieu à être le Seigneur de sa vie et être son témoin envers les autres. En outre, Élimélec et Naomi sont éphratites, selon notre texte. Or, Éphrata signifie « double bénédiction ». Comme pour ces champs de blé et d'orge prolifiques, eh bien, Bethléem avait été appelée « maison du pain » parce que, tout simplement, s'il y avait bien un lieu où il y avait un endroit où on pouvait être espéré être nourri, eh bien, c'était bien là. C'était bien grâce au blé et à l'orge, aux céréales qui s'y trouvaient. C'était là que Dieu avait placé particulièrement sa bénédiction, dans ce lieu en le transformant comme une espèce d'endroit symbolique de sa bienveillance et de ses tendres soins envers son peuple. Mais au lieu de se demander pourquoi, eh bien, ce lieu a cessé d'être béni par Dieu, au lieu de se remettre en question avec les autres habitants du pays, eh bien, Élimélec préfère partir. Et lorsque dans nos vies, nous traversons, nous aussi, des moments difficiles, des moments compliqués, il est parfois plus facile d'accuser Dieu, ou les autres de ce qui arrive, plutôt que de se remettre en question d'abord. Lorsque Dieu nous met face à nos péchés ou bien face à nos compromis, il est parfois difficile de reconnaître que ce que nous vivons vient de nos mauvais choix ou de notre discernement altéré. Et il est difficile de demander pardon à Dieu en désirant repartir de zéro. Trop souvent, nous préférons fuir le sujet et nous enfoncer sur des chemins de traverse qui nous perdent. Et nous voyons où cela a conduit Élimélec. Élimélec et Naomi sont donc éphratites, ils sont donc porteurs de vie, double fécondité, donc porteurs de vie, et pas seulement de la double vie de leurs deux fils, mais ils sont aussi censés être porteurs de vie autour d'eux. La fécondité appelle la vie, elle appelle l'espoir, la transmission. Être fécond ne se fait pas sans douleur, sans difficulté, mais c'est une formidable occasion de joie, une formidable occasion de gratitude envers Dieu qui manifeste sa grâce et son amour, envers un nouvel être qui arrive au monde. Élimélec et Naomi ont cru qu'ils allaient pouvoir être porteurs de vie au pays de Moab. Mais en fait, ils se sont égarés dans leur mission et ils ont rencontré, au bout du compte, la mort. Et c'est finalement deux jeunes femmes, Orpa et Ruth, qui se retrouvent comme stériles au lieu d'être fécondes. Et puis, on pourrait continuer ainsi, mais je vais abréger un peu, mais vous comprenez le processus. Élimélec et sa famille habitaient aussi dans le territoire de Juda, qui signifie qu'ils soient loués, qu'ils soient célébrés. Ainsi, au fil de leur éloignement de Juda, Élimélec et Naomi ont cessé de louer Dieu, de le prier, de nourrir une relation intime avec lui. Et ils ont aussi cessé de le faire avec leur peuple. Et Juda se trouvait lui-même dans le pays d'Israël, qui signifie « il lutte avec Dieu ». Élimélec et sa famille, ont ainsi cessé de lutter avec et pour Dieu. Ils ont cessé, quelque part, d'être passionnés pour Dieu. Et dans nos vies aussi, parfois, il peut nous arriver de quitter la maison du pain, la présence de Dieu, de nous désancrer de lui. Alors, nous cessons peu à peu d'être féconds. Nous quittons la plénitude de Dieu et notre vie devient peu à peu stérile. Notre vie de prière s'étiole. Notre communion avec Dieu s'appauvrit. Nous cessons d'être passionnés pour Dieu et par Dieu. Nous nous installons dans une vie confortable, mais stérile. Nous finissons par nous couper de la vie de l'Église, en préférant la vie du monde. Quelques mots justement sur le pays de Moab, dont vous avez vu une photo juste avant avec ses montagnes et ses vallées verdoyantes. Moab qui peut représenter le monde donc ici dans notre récit. Moab naît, peut-être vous vous en rappelez, après l'épisode de Lot à Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre est détruit et Lot réchappe miraculeusement par la grâce de Dieu et il se retrouve avec ses deux filles. Et ces deux filles ont une réflexion, il faut que notre race soit perpétuée. Alors elles se disent l'une à l'autre, on va faire boire notre père et puis on va coucher l'une après l'autre avec lui et il va nous donner des enfants. Et c'est ainsi que l'aînée va enfanter un fils qui s'appelle Moab et l'autre va... La plus jeune va enfanter un autre qui s'appelle Ben-Ami et qui sera le père des Ammonites, un autre peuple qui sera ennemi d'Israël. Et nous voyons que là aussi, toute cette réflexion repose sur un argument qui semble bon quelque part en apparence, puisqu'il s'agit de perpétuer la race, mais nous voyons les répercussions que cela va avoir ensuite dans les relations entre les peuples dans le Proche-Orient à venir. Moab, au temps où Israël a essayé de traverser le désert, a refusé le passage à Israël sur ses terres. Il lui a refusé le pain et l'eau. Et c'est un passage qui va irriter profondément le Seigneur. Dieu dira ainsi en Deutéronome 23 « qu'aucun Moabite ne pourra vivre dans l'assemblée du Seigneur, dans l'assemblée de l'Éternel. Et puis, Moab va ensuite faire appel au devin Balaam, vous vous en souvenez peut-être, pour essayer de maudire Israël, mais ça va se retourner contre eux. Et ainsi, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que Moab devient comme une espèce de peuple ennemi de Dieu. Et Moab est ainsi connu comme cela, et vous pouvez retrouver cette pensée dans les prophètes Jérémie ou Isaïe qui parlent de Moab ainsi. Alors, quand on fait le bilan de tout ça, autant on pouvait comprendre au début du récit, au début de notre réflexion, que Élimélec, eh bien, avait fait le bon choix finalement. Il avait fait ce qu'il fallait pour sa famille. Mais maintenant, quand on réfléchit à tout cela, est-ce que nous pouvons vraiment penser que Élimélec avait fait le bon choix? Sachant, et je rajoute, qu'en Moab, eh bien, il y avait des dieux étrangers. Il y avait notamment Kémosh, à qui on sacrifiait des enfants brûlés vifs, dans un pays où on offrait des enfants en holocauste, donc un pays vraiment idolâtre. Est-ce que Élimélec a fait vraiment le bon choix finalement? Moi, je dirais que Élimélec a agi selon la logique d'en bas et pas selon la logique d'en haut. C'est l'apparent confort que propose Moab, connu pour être une terre encore plus fertile que celle d'Israël, qui tente Élimélec et qui le fait céder. Il renie ainsi son propre nom et il choisit de ne plus faire de Dieu son Seigneur, mais de céder aux idoles et aux tentations de Moab. Un dernier point. Les drames de, avant d'aller un peu plus loin dans notre réflexion, un dernier point, c'est que, eh bien, les drames de la famille d'Élimélec auraient peut-être pu être évités encore, parce que nous voyons que, au début, il est question pour cette famille d'aller faire un séjour en Moab. Qui dit séjour dit un voyage, peut-être un séjour de, on va dire, de courte durée en tout cas. Mais nous voyons qu'après, plus loin dans le texte, la famille s'installe. Déjà, ils y fixent leur demeure, est-il écrit. Et puis après, il y a un temps, jusqu'au moment où Élimélec meurt. Là, ses deux fils prennent des filles et ils y vivent encore 10 ans avant que les deux fils meurent. Donc je ne sais pas, je ne suis pas très sûr qu'on puisse appeler ça vraiment un séjour. Mais si Naomi et Élimélec avaient fait le choix, s'étaient dit « bon, on va y aller là-bas ». Provisoirement, pour prendre des forces, pour on va y demeurer provisoirement, mais après on va revenir en Israël, on va revenir à Bethléem. Mais non, ils ont choisi de demeurer, de fixer leur demeure en Israël, et en plus, ils y ont vraiment adhéré à ce peuple, puisque les deux fils ont choisi de prendre des filles moabites, ce qui était contraire à la loi, et on voit vraiment qu'ils s'étaient vraiment assimilés au peuple de Moab, et qu'il y avait vraiment une volonté de demeurer là. Et finalement, eh bien, ils ont oublié le Dieu de leur père, ils ont oublié leur pays, ils ont cédé à la facilité. Et nous? Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à faire n'importe quel compromis sous prétexte de rechercher le bien? Est-ce que nous sommes prêts à nous risquer sur des chemins glissants, dangereux, estimant que nous contrôlons la situation pour finir par ne plus rien maîtriser et pour finir par perdre et tomber, comme Élimélec et sa famille? Tomber, c'est ce qui est arrivé à Naomi. Et maintenant, le récit biblique, eh bien, fait que le projecteur se tourne vers elle. Comment est-ce que cette femme, cette maman, a vécu tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est partie volontiers de Bethléem, ou bien est-ce qu'elle a subi le choix de son mari et a suivi, mais voilà, un peu contrainte et forcée? Et comment est-ce qu'elle a vécu son arrivée à Bethléem, en Moab? Comment est-ce qu'elle a vécu la perte de son mari, et puis après de ses deux fils? Comment a-t-elle vécu tout cela? Le récit biblique ne le dit pas, mais on peut penser quand même que ça a dû être très dur pour elle, qu'elle a dû vraiment beaucoup souffrir dans son être intérieur. Mais voilà, Maintenant, elle est complètement désemparée, complètement démunie, puisque elle n'a plus son mari, elle n'a plus ses fils. Elle est un peu comme le fils prodigue, vous savez, du Nouveau Testament. Et dans cette situation dramatique, eh bien, c'est Dieu qui l'appelle, au travers d'une bonne nouvelle, qu'elle apprend, l'Éternel a visité son peuple et lui a donné du pain. Ça y est, c'est l'heure du changement. Cette bonne nouvelle, eh bien, elle change tout dans le cœur de Naomi. Naomi comprend qu'il est temps de tourner la page, qu'il est temps de se remettre en route, de quitter ce lieu maudit pour retrouver la véritable nourriture qui vient de l'Éternel, lui-même. Comme le fils prodigue, elle réalise que c'est le lieu qu'elle a quitté, qui est le lieu de la bénédiction, et pas le lieu où elle est restée, ici, là, en Moab. Naomi, par sa « repentance », entre guillemets, réussit ainsi là où Élimélec ne s'est jamais engagé, c'est-à-dire sur le chemin de la réconciliation, d'abord avec Dieu, et ensuite aussi avec elle-même. Après des années où elle a mangé du pain, mais dépéri dans sa vie intérieure, elle décide de reprendre sa vie en main et de faire confiance à Dieu en suivant son appel. Et en ce début d'année, bien nous pouvons nous aussi nous interroger sur les aspects de notre vie que nous sommes appelés à reprendre en main, en répondant à l'appel de Dieu. Peut-être sommes-nous au fond du trou comme Naomi ou le fils prodigue. Mais à l'instar de Naomi, eh bien, qui a reçu cette bonne nouvelle, eh bien, Dieu nous adresse aussi une bonne nouvelle ce matin. Eh bien, c'est qu'il nous aime infiniment. Et il désire que nous soyons à ses côtés. Il désire ardemment nous retrouver, alors que nous nous sommes peut-être éloignés de lui pour diverses raisons. Bonnes peut-être, en apparence, ou bien mauvaises. Nous pouvons ainsi revenir à lui, parce qu'il nous attend. Il nous guette, comme le Père guette le Fils prodigue, et n'attend qu'une seule chose, eh bien, c'est lui montrer tout son amour. Naomi donc se lève, et elle se met en route avec ses deux belles filles. Oui, mais voilà, elle n'est pas tranquille. Elle sait ce qui attend ses belles filles quand elle va arriver à Bethléem. Comme nous l'avons lu, eh bien, les Moabites ne sont pas admis dans l'assemblée de l'Éternel, et il est même rajouté que tout enfant qui naît d'une union interdite, donc par exemple entre une Moabite et un Israélite, eh bien c'est quelque chose qui ne peut pas être autorisé dans l'assemblée de l'Éternel. Un enfant qui naît d'une union comme ça ne peut pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Donc, on voit que la situation est vraiment compliquée. Naomi n'a pas d'avenir à offrir à ses belles filles. Et en s'en rendant compte, elle comprend aussi que ses choix ont pu avoir des répercussions terribles, et bien sûr ses proches. Elle préfère donc les renvoyer chez elle, plutôt que de rentrer avec elle. Encore une fois, le choix de Naomi semble bon, sage en apparence. Mais la suite de notre récit nous montrera que si elle avait commencé son retour à Dieu, à ce moment-là, sur la route, en route, elle manquait encore de foi envers Dieu. Et nous, est-ce que nous avons de bonnes raisons d'empêcher notre prochain de découvrir Dieu, de venir à l'Église ou bien de rencontrer d'autres croyants ? Leur laissons-nous le choix ou bien décidons-nous à leur place de ce qui nous semble bon pour eux ? Heureusement, le projecteur de notre récit se tourne maintenant vers Ruth. Et c'est une véritable bouffée d'oxygène lorsque nous lisons ces paroles. Quel émerveillement de découvrir ces paroles et de découvrir le décalage qu'elle apporte par rapport à Élimélec et Naomi. Et je relis. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » Ruth signifie « ami, compagne ». Aussi, il y a de nombreux commentaires qui existent et qui en font des paroles de Ruth, eh bien, l'éloge de l'amitié, de la fidélité. Et il est vrai que tout semble indiquer que Ruth aime sincèrement, profondément Naomi, et la suite du récit nous montrera après dans le reste du livre combien elle est attachée, combien elle est fidèle à sa belle-mère et combien elle ne la lâchera pas. Et Naomi, d'ailleurs, non plus. Mais au-delà de cet aspect qui déjà nous questionne sur la solidité des liens familiaux et amicaux que nous pouvons avoir avec les autres, eh bien, ces paroles revêtent une dimension spirituelle aussi très importante. Parce que ici, dans ces paroles, eh bien, c'est Yahvé, le Dieu de l'Alliance, qui est invoqué par Ruth. C'est comme si, quelque part, eh bien, Ruth a entendu parler de Dieu, du Dieu d'Israël, peut-être par la tradition orale. Elle en a entendu peut-être aussi parler de la part de Naomi. Et puis, elle a dû être touchée aussi certainement par le retour, ce début de retour de Naomi à Dieu. Ce n'est pas seulement son amour donc à Ruth pour Naomi qui la pousse à avoir cette démarche. C'est aussi comme un feu qui s'est allumé quelque part dans son cœur et qui brûle pour le Dieu de l'Alliance. Et elle désire rentrer dans cette alliance maintenant en posant ces mots avec qui sont forts quand même. Eh bien, elle déclare tout son engagement envers Dieu, envers ce Dieu qui n'est pas son Dieu d'origine, mais qu'elle désire adopter comme son Dieu. Elle signifie que, ainsi quelque part, qu'une fois qu'elle sera en Israël, eh bien, elle ne va pas préparer une valise en carton qu'elle va cacher sous son lit et puis qu'elle va ressortir dès que la première difficulté apparaît, qu'elle va prendre en main et elle va dire au revoir à Naomi en disant « Non, maintenant c'est trop dur, je m'en vais, je retourne chez moi. » Non. Elle désire rentrer dans cette alliance avec Dieu. Elle désire s'engager profondément avec lui. Non seulement elle veut s'engager dans cette alliance avec Dieu, mais aussi, eh bien, elle veut également faire partie du peuple de Dieu. Elle veut faire partie du peuple d'Israël et dans notre langage moderne, on dirait qu'elle veut faire partie de l'Église. Et pour Ruth, nous l'avons dit, eh bien, cela n'est pas sans conséquences. Elle est prête à être marginalisée, à être rejetée par son propre peuple d'origine, mais aussi par le peuple d'Israël. Ce qu'Elimelech et Naomi n'avaient pas compris, elles le réalisent pleinement, à savoir donc que la bénédiction de Dieu repose sur Israël, sur Juda, sur Éphrata et sur Bethléem notamment. Elimelech ne voulait plus de Dieu comme son roi, mais Ruth, la Moabite, elle le choisit. Plus qu'une décision, c'est une véritable résolution que prend Ruth avec toute la gravité que cela suppose et engage. Ainsi, à cause de cette résolution, Naomi la laisse tranquille et elles continuent leur chemin. Et nous, en ce début d'année, quelle résolution avons-nous prise? Sûrement de bonnes résolutions, je n'en doute pas, certainement très légitimes, et essayons de les mener à bien. Mais n'éclipsons pas la plus grande des résolutions que nous avons faites et que ce récit nous invite à faire, celle de laisser Dieu être le Seigneur de notre vie. Dieu a sauvé Naomi et Ruth, et il va leur faire grâce à toutes les deux. Et la suite, la fin du livre de Ruth, nous montrera eh bien, que la grâce de Dieu va se manifester à Naomi, qui va avoir un petit-fils. Et le récit en fait comme si c'était son propre fils. Et ce fils sera le grand-père de David, l'ancêtre de Jésus. Dieu aussi nous a cherchés. Il nous a sauvés. Il nous a libérés. Il nous a fait grâce. Et il désire nous rendre féconds, nous aussi, porteurs de vie autour de nous. Alors, ne l'oublions pas et soyons résolus encore dans cette année 2022 de le suivre là où il nous a appelés. Je vous propose de prier. Seigneur, ce matin, je désire encore faire le point dans ma vie et réfléchir, méditer à là où j'en suis avec toi. Où en suis-je sur la route avec toi? Suis-je en partance vers Moab avec Élimélec? Suis-je de retour vers Bethléem avec Naomi et Ruth? Seigneur, montre-moi quel chemin je dois emprunter. Merci parce que tu m'adresses ce matin une bonne nouvelle. C'est que tu m'attends. Tu m'attends pour me manifester tout ton amour. Tu n'attends qu'une seule chose, c'est que je sois à tes côtés, que tu puisses régner dans mon cœur et dans ma vie. Seigneur, si ce matin je me suis égaré, je me suis perdu, je me suis éloigné, je me suis dirigé vers Moab au lieu de rester à Bethléem, Seigneur, montre-le-moi. Donne-moi de retrouver ce feu qui brûle et qui me donne ce désir de rester près de toi, dans la maison du pain, là où se trouve la fécondité, là où on peut te célébrer, te louer et où on peut être passionné de toi. Seigneur, merci pour cette année 2022, qu'elle soit riche et bénie, que tu puisses être dans cette année 2022 le centre, le Seigneur de ma vie, qui me conduise sur les chemins que tu as préparés d'avance pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.